Merci d'être venu et resté. Alors, cette table ronde, enfin, on va continuer la discussion qu'on a commencée. Je pense que je vais retourner la question que Gilbert m'a posée à lui-même, parce que je serai aussi intrigué de voir quelle est sa réponse par rapport à la gestion du cadre et de l'imaginaire ici. Donc, nous avons ici le plaisir donc, d'avoir avec nous Marie-Vélène Brincard, Alexis Cordès et Gilbert D'Arraio. Nathan Rera va les présenter brièvement avant de leur donner la parole. Et disons, l'idée ou l'esprit dans lequel on a essayé d'organiser cette table ronde, c'est d'essayer de voir dans quel contexte de production et de réception mémorielle ces différents cinéastes et photographes ont travaillé. Comment ils se positionnent par rapport peut-être à d'autres documentaires, démarches photographiques ou d'autres formes de représentation mémorielle. Également, une chose qui nous intéressait, c'était de voir dans l'évolution du temps comment est-ce que les différentes démarches ici de cinéastes, photographes peuvent évoluer par rapport aussi à un certain savoir présupposé auprès d'un public, même si plus d'une communication entre aujourd'hui et hier ont montré que ce savoir est toujours à faire et loin d'être acquis actuellement. Voilà, donc je cède la parole à Nathan pour qu'il introduise nos intervenants.
Merci Alexandre. Donc très brièvement, je pense qu'on n'a pas trop besoin de t'introduire Gilbert avec tout ce qu'Alexandre nous a dit sur ton travail. Bon, on peut rappeler que tu es diplômé de Columbia University où tu as obtenu ton Master in Fine Arts comme scénariste et réalisateur. Et donc tu as réalisé un premier court-métrage qui s'intitule Scars of My Day en 2006 et deux films qui sont déjà terminés donc sur le génocide, qui sont des films ethno-documentaires, Rwanda Beyond the Deadly Pit en 2010, donc que nous avons projeté au cinéma Les Trois Luxembourg, The Rwanda Night en 2013, et tu es en train de terminer ton film qui s'intitule The Blood of the Chosen, qui est en production. Alors Marie-Violaine Brincard, donc, qui est à ma gauche, donc Marie-Violaine enseigne la littérature et le cinéma à Paris et en Seine-Saint-Denis, et donc elle a consacré un premier film au génocide des Tutsis à travers l'expérience d'un rescapé, donc un film qui s'intitulait « D'un monde à l'autre », et est ensuite venu un documentaire très, très important, tant pour la force de son dispositif que pour ce qu'il dit aussi de l'histoire du génocide au Rwanda. Donc un film qui s'intitule « Au nom du Père de tous du ciel » et qui est consacré aux Hutus qui ont mis leur vie en péril pour sauver des Tutsis. Et puis, Alexis Cordès, donc, que nous remercions aussi d'être là avec nous, donc, qui a réalisé un très large travail sur le génocide des Tutsis à travers non seulement un court-métrage qui s'intitule « Itsamba Tsamba » en 1996, un travail sur les bourreaux ordinaires en quelque sorte, l'aveu en 2004, et un tout dernier travail dont il nous parlera tout à l'heure, « Absence » en 2014. Et donc il y a eu une série de 4 expositions, si mes souvenirs sont bons, entre la France et la Belgique en cette année 2014. Voilà, donc le but, c'est de leur laisser la parole et de les écouter pendant quelques instants. Et puis après, nous engagerons un dialogue avec eux et avec vous, bien évidemment. Donc, on laissera tout de suite la parole à Gilbert.
Voilà, donc Gilbert voulait commencer par présenter.
Niveau.
Abatutsi.
Icambe Mushatira. Il s'en sort.
Il s'en sort.
Toka Mushatira di Chirago, Chakumoros. Signor.
Oui, mon général.
Chef in Aram.
Oui, mon général.
Muritaya.
Bah, j'ai dit que je suis un peu plus de
Je ne sais pas si tu es là.
Non, non, non. Et
tu dis quoi, tu dis moi, mais tu dis quoi, tu dis quoi, mais tu dis quoi, tu dis Tavara, tu dis quoi, mais animagam, tu dis quoi, tu dis Tagati. Non, 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 tu as dit que tu dis quoi, tu dis quoi, tu dis quoi, Nyagasani, iki gihugu cyacu cyacitse umugongo. Niyo mpamvu tukwiragije uhoraho tujye imbere. Kandi udufashe kugira ngo tubashe gukura umututsi muri iki gihugu. Ushobora byose ni aho umugisha Imana Data na Mwana na
Je ne sais pas si tu es là.
Bon, voilà, ça c'est les images de mes premiers travaux sur la mémoire du génocide. Comme vous voyez, je ne savais même pas, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'est un moyen ou close-up, donc toutes sortes d'images qu'on peut utiliser. La caméra se trouve là où vous êtes, c'est comme si vous regardez le théâtre de ce génocide devant vous. Et voilà, là, je suis dans l'écriture de ce projet. Un, comme une pièce théâtrale. Deux, comme un film en soi. Pour commencer, j'aimerais dire que pour moi, je considère deux écoles de cinéma. Il y a l'école Hollywood, il y a l'école auteur. Donc, dans l'école Hollywood, on a quand même mentionné Hôtel Rwanda qui entre dans ce genre de production où le film est produit à un seul but qui est de faire de l'argent. En fait, Hôtel Rwanda a été produit avec 10 millions de dollars. Et jusqu'aujourd'hui, donc dans les caisses des producteurs, ils ont reçu à peu près 170 millions de dollars. Pour la question de Roussé Sabagina qui revient tout le temps, en fait, la maison de production qui sert aussi de représentation, je crois que la maison de production reçoit à peu près 5 000 dollars à chaque présentation de Roussé Sabagina. Mais en retour, il reçoit, dans les 100 000, reçoit 30 000 dollars. Donc, vous voyez que l'école Hollywood, il s'en fout complètement de la mémoire. La mémoire est prise comme une machine donc, qui produit l'argent pour eux. Par contre, le film Shooting Dogs, quand il est sorti, il y avait toute une question, où est-ce qu'on le place? Et par après, les producteurs hollywoodiens qui ont voulu s'associer à ce film, ils ont dit, bon, tirer sur les chiens, bon, comment est-ce que les Américains vont consommer ce film? Alors, il y a eu toute une série de discussions et donc ils ont changé le titre pour mieux attirer l'audience internationale et le film est devenu Beyond the Gates. Ça, c'est pour l'école hollywoodienne. Le deuxième école, c'est école auteur. Là, j'essaie de trouver si je peux toujours être là dans cette école. Mais il y a deux versions. Il y a la version européenne et il y a la version quand même de New York. Le cinéaste est au centre de son œuvre, mais il utilise la caméra comme un outil de la narration. En ce qui me concerne, l'année prochaine, donc je fêterai 10 ans dans le cinéma comme réalisateur écrivain. Je vais sortir 3 œuvres, 3 documentaires longs métrages avec une durée totale de 470 minutes. J'invite quand même aux gens de ce colloque qui m'ont honoré en m'invitant aussi d'essayer d'être en contact. Comme ça, nous pourrons célébrer ensemble ces films documentaires. La question du génocide, il m'est très difficile de même chercher à m'imaginer. Ma position, c'est surtout après le génocide. Après le génocide, nous, comme les rescapés du génocide, on nous a dit « Ibuka, souviens-toi ». Mais qu'est-ce que cela veut dire « souviens-toi » Comment peux-tu te souvenir si tu n'as pas des repères? La mission d'Ibuka en tant qu'association maire de toutes les associations des rescapés du génocide est très clair et il est bien défini, mais le mot Ibuka en soi n'est pas complet comme Ibuka quoi, on se souvient de quelque chose, on se souvient d'un endroit, de quelqu'un. Voilà, on m'a dit que j'ai 3 minutes. Pour définir la trajectoire de mes films, j'entre dans la tradition orale, surtout à travers la poésie où le Rwandais s'identifie, où les Rwandais ne s'identifiaient pas comme des Hutus, des Tutsis ou des Twa. L'identité rwandaise n'était qu'un jeu de mots. Isoni de Kazitunga. Vous comprenez ce que je dis, hein? Alors, c'était plutôt on te demandait qui est ton père. Et tu devrais répondre que ton père est un homme qui fait tout pour son avenir. Et par après, on te disait, Girasotunga, qu'est-ce qu'il a comme patrimoine? Voilà, et là, j'en passe. Ce poème offre quand même une possibilité de placer la caméra pour cadrer la structure familiale. Ainsi, moi, j'ai grandi dans la poésie. Mais j'ai quand même étudié la philosophie. Ici, je cite Jean-Luc Nancy dans son livre, Au fond des images. Il parle quand même de l'interdit de la représentation dans le génocide, de la représentation du génocide. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est sa vision quand il parle du pays, paysan, paysage. Donc, les individus, la gestion des affaires, de l'État, mais aussi paysage comme lieu de massacre. Alors, moi, je ne suis pas du tout au complet la philosophie française, mais la philosophie rwandaise qui part de Inzira ya muntu n'uruziga imeze nk'inzo kayiru mu murizo. Le chemin de l'homme est un cercle. Il est comme un serpent qui se mord la queue. Je peux continuer jusqu'au hiver, mais comme je n'ai pas le temps, dans ma conception, je m'inspire de ce poème sur la sagesse rwandaise pour exprimer mes idées dans la maxime qui signifie littéralement, donc sous-entendu que cette légende qui raconte la brusque disparition des familles des Tutsis. Alors, je cours dans le cadre de mon premier film. En fait, moi, je l'ai dit lors de la projection, une minute je crois. Là, j'ai dit et je le répète, au lieu d'être consommé par le génocide, j'ai décidé de le consommer. Parce que ce qui était à l'intérieur de moi, la façon dont je me souviens de mes parents, de mes grands-parents, il s'agit autour de 52 personnes, là, elle est différente, cette façon est différente dont la façon... Mes frères se souviennent. Alors, je cours encore. Pour mieux m'exprimer, je ne savais pas comment approcher le matériel, mais j'ai quand même trouvé la nouvelle vague française et je me suis inspiré des modes de l'approche cinématographique qu'on trouve dans le style de cinéma vérité. Alors, avant de terminer, quand même, il faudra dire que dans le film, on est en France, c'est ma première visite, et c'est très excitant d'être à Paris, mais l'affaire française, comment cadrer cela? Comment est-ce que j'ai cadré cela? Et j'ai pris, dans le film, il y a trois suspects. Il y a le suspect numéro un qui confesse, il y a le suspect numéro deux qui nie que le génocide a eu lieu, mais il y a le suspect zéro, qui est la France. Donc, j'ai cherché quand même à donner un chiffre, mais je me suis dit que quand même, je n'ai jamais vu un Français qui portait une machette, mais quand même, on a parlé de la gestion ou l'ingestion de la France dans l'affaire rwandaise. Alors, pour terminer, dans mon film, il y a au moins 90 secondes de cris. Il peut être un cri de douleur, de la douleur ou un cri de cœur. Il y a des références à Dieu, des caractères qui discutent de la question de la divinité. Alors, qu'est-ce qui est Dieu? Où était Dieu pendant le génocide? On peut toujours parler de tout ça. Troisième, c'est que mes films sont placés pas dans le génocide, mais dans l'après, dans le Rwanda post-génocide. Le quatrième, c'est que la plupart des documentaires que je vais faire, il y a des fois où je ne suis pas seulement derrière la caméra, mais je vais devant la caméra. Donc, il y a hors-champ et les contre-champs, comme le professeur Alexandre a dit. Et une chose que je fais, je ne touche pas la caméra. Je touche seulement la caméra pour une et une seule image, le handheld shots. Donc, je dois porter la caméra sur mon épaule, sentir le poids pour chercher cette image qui, en fait, l'image que je filme est plutôt révélatrice. Donc, voilà.
Bonjour. Bon, déjà, je voulais évidemment commencer par remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité, d'avoir aussi projeté au nom du Père de tous du siège et des derniers au 3 Luxembourg. Et justement, après la projection du film, un Rwandais dans la salle m'a posé la question de savoir pourquoi, au milieu de tant d'histoires possibles, j'avais été choisir celle-là, c'est-à-dire donc celle de ces rares Hutus qui avaient fait le choix marginalisant à l'époque de sauver les Tutsis alors que la norme sociale était de les tuer. Cette question, c'est une question qui est très importante pour moi parce qu'elle fait écho aussi à celle de mes amis rescapés qui, lorsque j'ai initié cette démarche donc d'aller vers ces Hutus en 2005, étaient très réticents. Donc j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment j'ai abordé ce sujet en mettant en parallèle à la fois ma relation, parce que je pense que c'est très important, la relation que j'ai avec le Rwanda, donc mon itinéraire personnel et mon itinéraire filmique, parce qu'ils sont vraiment, vraiment liés. Donc je fais partie, comme beaucoup de ces Français, qui n'ont absolument rien compris en 1994 et qui ont découvert très tardivement le Rwanda en 2002, dans un petit livre de Mediba qui s'appelait « Rwanda, un génocide français ». Donc c'est un véritable choc pour moi, un choc déjà politique, en tant que citoyenne française. Et ensuite, je vais plonger dans l'histoire du Rwanda et dans les récits des rescapés. Et là, c'est vraiment un ébranlement humain extrême. Je crois qu'il y a un avant et un après le Rwanda. Donc, je pars avec cette sensibilité-là au Rwanda pour la première fois en 2004 avec un ami rescapé. Et nous avions décidé de faire un film donc, sur les lieux. Donc, on revenait sur les lieux de sa mémoire, de son génocide. Et j'ai été incapable de faire ce film, même si je l'ai terminé. Alors, incapable, pourquoi ? Parce que, j'étais en proie à mes émotions. C'est-à-dire que, en fait, Kigali était rempli de tous les cadavres, des récits des rescapés et de son récit à lui. Je traversais des foules de personnes qui étaient des cohortes de tueurs. Tous les Hutus étaient devenus pour moi des génocidaires potentiels. Donc, j'étais vraiment dans un chaos intérieur qui ne me permettait pas, en fait, je courais tout le temps après les images et donc j'étais vraiment dépassée. Et le second point aussi, c'est que j'avais complètement perdu mon regard en empruntant celui de l'autre. Et ça, si j'avais une image qui peut résumer cette expérience à la fois humaine et filmique, c'est comme un lac dans lequel cet ami rescapé se noyait. Et moi, au lieu d'être sur la berge avec un bâton, non pas évidemment avec la prétention de le sauver, mais au moins un bâton sur lequel il puisse s'appuyer, j'étais à côté de lui en train de me noyer. Et je crois que ce bâton, en tout cas en tant que cinéaste, c'est la distance nécessaire entre celui qui filme et celui qui est filmé et qui permet d'introduire le regard du spectateur. Donc ce film est un huis clos, malheureusement. Et donc, quand je suis rentrée du Rwanda, j'étais anéantie, bon, évidemment, humainement, donc par cette expérience, parce que je crois que même si on est extérieur au génocide, c'est une expérience humaine éprouvante. Et cinématographiquement, évidemment, puisque j'étais passée à côté du témoignage de cet ami, je n'avais pas réussi à le transmettre avec les moyens du cinéma, qui sont quand même l'image et le son, et que c'était très, très défaillant. Donc, tout mon cheminement après ce premier voyage a été de récupérer mon regard, qui n'est pas celui de l'autre, même s'il peut l'accompagner, et qui peut donner une place à ce tiers qui est le spectateur. Et quand je suis rentrée du Rwanda, je suis rentrée avec une jeune rescapée qui a habité chez moi pendant très longtemps et qui fait vraiment partie de ma famille. Et c'est son histoire, en fait, qui m'a donné la possibilité de retourner au Rwanda, enfin, qui m'a donné donc l'idée de ce film. Ses parents et ses grandes sœurs avaient été recueillis par un voisin Hutu. Et malheureusement, quelques jours avant la fin du génocide, ils avaient été découverts et ils avaient été massacrés ensemble. Et surtout, son père et ce voisin Hutu avaient été enterrés vivants ensemble. Et cette image vraiment me poursuivait. Je me disais, mais quelle est la place qui est donnée finalement à ces hommes-là qui ont fait le choix de rester humains au moment du génocide et je crois que j'avais besoin de me raccrocher à une lueur d'humanité, de retrouver en fait, de me réconcilier avec l'humanité. Donc voilà, ça c'était mon itinéraire personnel, de croire que l'humanité n'était pas complètement morte en 94. Et d'aller à la recherche de ces personnes qui avaient montré qu'on avait le choix de ne pas tuer. Et ça me donnait, ou même ça nous donnait, du courage. Donc comment j'ai travaillé, j'ai commencé à... Il y avait eu des rapports du Pénal Reform International donc sur les justes à Kibuye, un rapport de Human Rights Watch, et surtout en fait sur le terrain en 2007 quand j'y suis allée pour faire ce travail de recherche. Ce sont les parajuristes d'Ibuka Rwanda qui m'ont beaucoup aidée, parce que je ne pouvais pas dire en tant que personne qui était juste ou qui ne l'était pas, et donc je repartirais sur les critères en fait que m'avait donné donc le président d'Ibuka. C'était ceux qui avaient sauvé des Tutsis au péril de leur vie, qui n'en avaient pas tué par ailleurs, parce que ça a été aussi le cas, ceux qui l'avaient fait sans aucune compensation financière, et ceux où il y avait suffisamment de personnes qui pouvaient témoigner de ces actes-là. Alors, ce qui est aussi important, je crois, par rapport à la dénomination, Les Justes, le film ne s'appelle pas Les Justes, parce que c'était... Je ne sais pas s'ils l'ont été avant, je ne sais pas s'ils le sont après, et que ce qui était important, c'était de ces actes de résistance, en fait, vraiment l'acte de résister qui me semblait extrêmement important. Il y a un mot rwandais qui m'a été donné, qui a été d'ailleurs le titre à un moment du film, qui s'appelait Abajizeneza, ceux qui ont fait le bien. Et je crois que le film parle de ça. J'avais deux principes, je terminerai là-dessus, sur ma démarche esthétique, puisque du coup j'ai vraiment pris le temps de travailler aussi la forme du film pour avoir aussi cette distance importante. J'avais deux principes esthétiques qui ont donc guidé ma démarche et qui partaient de ce que j'avais pu constater. C'était des personnes qui avaient peu de visibilité dans la mémoire du génocide. Donc c'était important que le film impose leur image. J'avais choisi un chef opérateur très très soucieux du cadre et de la composition pour montrer leur présence. Donc quand ils sont dans le cadre, bien sûr, où je trouve qu'il a vraiment travaillé, ce sont comme des tableaux. Et aussi lorsqu'il filmait des paysages pour que finalement ces paysages renvoyaient d'une manière ou d'une autre leur image. Donc ça, c'était important. Et le deuxième point, c'était vraiment des principes très simples, mais c'était des gens aussi qui étaient très peu entendus. Donc le film aussi devait nous mettre en situation d'écoute, donc il y a ce choix des cadres fixes qui a été fait, et d'une parole ensuite qui va résonner sur les lieux du génocide, parce que c'était important aussi qu'il y ait une parole, justement, encore, comme je disais, un tout petit peu d'humanité qui puisse encore être dans ces paysages. Voilà, je crois que je m'arrête là.
Bonjour. À mon tour, je souhaite remercier les organisateurs du colloque pour leur invitation. Donc, je suis photographe. Et Nathan Hera m'a proposé de parler pendant ce court laps de temps d'une série qui s'appelle Absence. C'est une série dont on va vous projeter quelques visuels. Néanmoins, je pense qu'il faudrait peut-être remettre Absence dans une perspective plus large. C'est donc la troisième partie d'un cycle à propos du génocide des Tutsis du Rwanda que j'ai entamé en 1996. Où là, pour la première fois, je me rends sur le terrain et je commence à réaliser ce qui s'est passé. Donc prendre conscience d'une part qu'on est là face à un événement unique et d'autre part, par rapport à un sujet que vous avez abordé précédemment, une faillite des autorités, de l'autorité des images à informer, et c'est trouver des solutions et des approches visuelles pour arriver... à signifier la spécificité, la particularité du crime qui s'est déroulé. Et donc, de ces images réalisées en décalage, 2 ans après, associées à des extraits de la radio des Mille Collines, va naître le projet Itsemba Tsemba, qui, en 13 minutes, associe ces deux supports pour essayer de créer du sens et, une fois de plus, tenter de faire surgir, de mettre en lumière la singularité de ce qui s'est passé. C'est un peu la première étape quand le visiteur ou le spectateur viens visiter l'exposition, même s'il n'y a pas un sens nécessairement imposé. La deuxième partie de ce cycle, le deuxième ensemble, c'est, comme l'a dit Nathan, L'aveu, qui est une série de portraits de bourreaux ordinaires, donc des photographies en couleur, que j'ai réalisées en 2004 dans la région de Kibouye, et auxquels j'ai associé des extraits, des entretiens que j'ai pu mener avec ces personnes au cours de ce séjour. Ce travail a d'abord fait l'objet d'un supplément dans Libération à l'occasion du 10e anniversaire du génocide, et je l'ai inscrit dans ce projet d'exposition. Voilà. C'est un dispositif volontairement modeste dans une idée de retourner l'échelle du crime, c'est-à-dire comment à un moment ramener ça à l'échelle de l'individu et trouver des formes d'incarnation du mal. Et ça pose la question de la distance à laquelle on peut chacun regarder ces personnes. Finalement, Absence est une troisième série qui renverse l'échelle, puisque là, ces photographies de paysages de nature sont présentées en grand format, avec une référence à un certain nombre d'éléments de notre culture picturale. En l'occurrence, une référence à cette idée du Rwanda comme un Éden, un paradis sur terre, et accessoirement une référence à la peinture, au romantisme allemand, à la peinture et au sublime. Voilà, donc ces images ont été réalisées en 2013, et principalement dans la forêt Nyungwe, mais pas seulement. L'idée était de finalement clore ce cycle en faisant retour par l'histoire, et de retourner là où on imaginait pouvoir se trouver les sources du Nil, et donc repartir de ce point géographique, et en même temps essayer de proposer une vision de la nature qui traduise le sentiment toujours très ambigu que j'ai eu, c'est-à-dire à la fois d'être subjugué par la beauté des paysages, et en même temps très vite d'avoir mon imagination qui se met en place, en cours, et qui viennent ébranler cette envie de m'abandonner comme ça à une contemplation du beau. Voilà. Et donc l'idée, c'était comme ça de voir comment, dans ce parcours d'exposition, on pouvait arriver à la fin, dans cette troisième espace, à inciter le spectateur dans cette situation ambiguë qui vise un peu à déconstruire une vision romantique de la nature qui voudrait que cette beauté, ce sublime, à la fois nous contente et en même temps nous laverait de nos péchés, élèverait nos âmes et nous ferait nous prémunir de l'horreur. Donc voilà, c'est un parcours. Je montre ce travail, je l'ai montré la semaine dernière encore à un conservateur. Et c'est vrai que s'agissant de l'absence, il m'a posé la question de savoir si ces photos pouvaient être présentées indépendamment des deux autres corpus d'images. Et je pense qu'il a posé la bonne question, c'est-à-dire est-ce que finalement, aujourd'hui, le génocide rwandais est suffisamment inscrit dans l'imaginaire pour que le hors-champ fonctionne à plein, puisque ces images ne montrent rien, si ce n'est une forme de célébration de cette beauté de la nature des paysages rwandais. Et je crois que j'étais un peu en peine de lui répondre, si ce n'est que je lui ai dit qu'effectivement, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il n'y ait plus qu'à présenter ces images. J'en suis pas sûr, je pense que ça a évolué. En 96, les choses n'étaient pas loin de là où elles sont aujourd'hui. Effectivement, je crois que viendra peut-être un moment où il n'y aura pas besoin d'expliciter, on va dire, le hors-champ de toutes ces images. Voilà, j'ai fait court.
Alors, peut-être juste une précision pour rebondir ce que tu disais, Alexis, c'est que dans ta dernière série, il y a également, me semble-t-il, des témoignages audio de rescapés que tu as utilisés. et notamment également le témoignage de Joséphine Doussabimana qui apparaît dans le film de Marie-Violaine Brincard.
Oui, voilà. Donc dans l'envie d'être le plus succinct possible et le plus synthétique, peut-être j'ai oublié de vous dire effectivement ça, mais d'une manière plus générale, ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que 96, je suis à l'origine un reporter, donc j'ai déjà couvert un certain nombre de conflits. Il se trouve que j'arrive au Rwanda, donc 2 ans après cette actualité dont on sait que elle a été, sa médiatisation a été ô combien problématique. Et je me rends compte d'une part, au regard de ma petite expérience de correspondant de guerre, qu'il se passe ou il s'est passé quelque chose là de particulier. En tout cas, un certain nombre de signes me le laissent à penser. Et puis, d'autre part, dans cette idée que... on peut résumer en disant l'horreur n'est pas le mal, c'est-à-dire que s'il avait fallu que je fasse ce film en construisant des séquences d'images signifiant l'horreur, je ne serais probablement pas arrivé à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc, quelque part, travailler en assumant ce que l'image ne peut pas montrer, l'image photographique, a été le ressort à la fois de ce premier travail, mais aussi des autres, où en fait à chaque fois, soit l'archive, soit le témoignage sonore, que ce soit des gens que j'ai interviewés par la suite, les bourreaux ordinaires comme dit Nathan, mais aussi ces 3 femmes rwandaises que j'ai associées à cette dernière série, c'est cette parole recontextualisée qui redonne une forme de puissance aux images et qui leur redonne un sens.
Ouvrir la discussion, s'il y a des questions.
Merci. Donc Jacques Schaff, enseignant d'histoire à la retraite, et comme je dis toujours, également traumatisé du génocide des Tutsis du Rwanda et jusqu'au boutiste de la vérité là-dessus. À revenir, donc j'ai beaucoup pratiqué avec des élèves le cinéma, et il fut un temps où il n'y avait que Hôtel Rwanda quasiment disponible. Donc j'ai beaucoup utilisé ce film. Je suis d'accord, bien évidemment, avec tout ce que vous avez dit. Ceci dit, j'ai pu constater que Hôtel Rwanda touchait énormément l'affectif des élèves et qu'à partir de cet affectif des élèves, on pouvait travailler. Bien sûr, c'est une fiction, mais la fiction a ce rôle, ce but de toucher le cœur. Pas seulement montrer, car montrer un tas de, je dirais, comme pour la Shoah, comme avec Alain René, qui montre un tas d'ossements, ça choque, ça perturbe, mais ça ne fait pas obligatoirement réfléchir. Là où je voulais en venir, la première question, donc à Gilbert Daillot, concerne une séquence de Hôtel Rwanda qui me paraît unique dans tout le cinéma français, dans tout le cinéma concernant le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est la scène où le héros téléphone à son patron belge pour demander l'arrêt des massacres. Le patron belge réussit à stopper le massacre des rescapés qui sont dans l'hôtel des Mille Collines, et le héros du film demande à son patron comment il a fait pour faire arrêter les massacres, et le patron de l'hôtel des Mille Collines répond: j'ai téléphoné, j'ai eu l'Élysée. Donc ce sont les Français qui ont été capables d'arrêter les massacres de l'hôtel des Mille Collines. Et donc, bien évidemment...
Excusez-moi, ouais. Est-ce que vous pourriez poser une question.
Oui, oui,
nous avons à peu près
donc,
7 minutes.
Donc, j'aimerais savoir s'il y a... Donc, j'ai beaucoup utilisé cette scène-là parce qu'elle est percutante, elle permet de faire réfléchir les élèves sur les responsabilités françaises. Est-ce qu'il y a ailleurs dans le cinéma quelque chose qui me permet de travailler là-dessus, sur cet aspect-là? Deuxième question qui est tout à fait parallèle, je rêve d'un film, non pas sur le génocide des Tutsis Rwanda, mais sur le pourquoi du génocide, sur pourquoi la communauté internationale n'a pratiquement rien fait. Un film du genre Amen, tout le monde connaît le film Amen. Aller dans les couloirs, faire une fiction, aller dans les couloirs de l'ONU, aller dans les couloirs, fabriquer un scénario
je crois qu'on,
là-dessus.
On a saisi la question.
Voilà. Et donc, est-ce que ça vous semble envisageable un jour de faire un film en ce sens, une fiction sur l'absence de réaction des autorités internationales? Merci. Excusez-moi d'avoir été trop long.
Non.
Mais bon, ça fait partie de la démocratie aussi.
De Philippe Vanleu.
Oui, moi, bonjour, mon nom est Philippe Vanleu. Je suis réalisateur d'un des films qui a été présenté par Alexandre. Merci, Alexandre. J'ai une question pour Nathan par rapport à l'esthétisme. Je pense que la composante esthétique est une fonction sine qua non du cinéma, et qu'il soit documentaire ou de fiction, parce que c'est un acte qui est posé a posteriori. J'ai pas du tout le même sentiment, et je pose aussi la question à Alexis Cornet, j'ai pas du tout le même sentiment par rapport à la photographie, et la photographie en particulier de reportage dans des situations douloureuses ou des situations qui impliquent en tout cas, qui est justement par la photographie un regard qui soit posé sur des événements quels qu'ils soient, a priori. Et je me demande si la recherche d'esthétique qui est devenue quand même une espèce de... qui fait partie, qui est une composante du regard de l'instant choisi pour déclencher, ne participe pas d'une forme de dérive qui amène à, quelque part, perturber en tout cas, si pas distordre d'une certaine manière, l'accès que le public peut avoir sur ce cliché en question. Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire.
Si, mais enfin là, il ne reste plus que...
Voilà.
Il ne reste plus que 3 minutes, là, ça va être
oui,
compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué, évidemment.
Est-ce qu'il y a encore une autre ?
Peut-être encore une ou deux questions ? Alors, ici,
il y a une madame au fond.
Sophie. Sophie, ici.
Non, mais c'est de... Allez-y. Il vient de l'autre côté, le micro.
Juste une question à Ndahayo sur comment est-ce qu'on peut, sur le plan esthétique. Et vous l'avez évoqué, j'aurais aimé que vous en disiez un peu plus. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la poésie rwandaise? Parce que c'est la seule façon d'être de faire un film, un documentaire en Kinyarwanda, dans le sens d'authentique. Comment est-ce qu'on fait, effectivement, vous l'avez évoqué, mais j'aurais aimé que vous en disiez plus. La poésie est la seule littérature qui existe chez nous. Les autres récits sont populaires. Là, comment est-ce qu'on fait? Et j'aimerais que vous en disiez plus, donc, sur cette inspiration poétique.
Merci. Donc, peut-être une dernière question.
Oui, je pourrais poser une question très rapide à M. Ndahayo aussi, que j'ai écouté avec le plus grand intérêt. J'ai été très saisie par les images que vous avez choisi de nous montrer au début de votre intervention, et je voudrais simplement que vous reveniez sur ce travail-là, sur ce spectacle de théâtre que vous avez filmé. Est-ce que ce spectacle, c'est vous qui l'avez conçu, ou qu'est-ce que c'était que le cadre de ce spectacle que vous avez filmé, que vous nous avez désigné comme ce que vous avez compris qu'il ne fallait pas faire, et qui en même temps, dans ce que vous nous avez montré, est absolument totalement saisissant. Enfin, voilà.
Il n'y a plus de questions. Donc, il nous reste à peu près 7-8 minutes pour répondre à toutes ces questions soulevées. Donc, allez-y, peut-être Gilbert, tu peux commencer.
Rapidement, côté Rwanda, il y a la question qui a été posée. Moi, je suis dans l'école qui privilégie la caméra comme un outil de narration. Donc, les productions hollywoodiennes... en citant l'exemple de Terry George, il a utilisé la stratégie de la narration qui utilise deux choses. Un, symbole et objet de la violence. Donc là, vous voyez les machettes, vous voyez tous les outils qu'on a utilisés pour tuer les gens. Alors, il s'agit de l'arme blanche. Bon, vous avez déjà l'image de la Shoah. Par exemple, il y a les filets barbelés, il y a la fumée, tout ça. Mais ça, ce sont les symboles de l'autre. Donc, ce qui s'est passé au Rwanda. Deuxième chose, c'est le caractère principal qui est donc la personne de Rusesabagina jouée par Dan Shillon, qui donc il est là pour attirer l'audience américaine parce que c'est un acteur qui est sur la liste B, donc pas sur la liste E. On connaît les clichés hollywoodiens qui parlent de héros. Il s'agissait de donner une récompense à un héros, à quelqu'un qui est le héros de l'histoire, mais aussi de punir les caractères, le méchant. C'est comme ça que le film est fait. Alors, pourquoi je ne sais pas si Esther est ici. C'est quelqu'un qui est très inspirant. C'est à travers Alexandre que j'ai découvert tes travaux. Et je dois dire qu'à un moment, tu as dit que l'image du génocide, c'est comme une cassette qui n'arrête pas de tourner. Et donc, pour moi, pourquoi ce n'est pas une question que je me pose? Pas dans mon école, pas dans la façon de je m'approche des activités ou des travails de commémoration. Pourquoi je crois que c'est une question très pauvre? On aboutit toujours parce que, et après c'est toujours pourquoi. Je pose autre question. Donc, mon film, le film que j'ai voulu faire, une fiction sur le génocide, c'était en fait le sujet de ma thèse, a été jugé trop. Est-ce que ce n'est pas trop pour toi? Pourquoi est-ce que tu vas utiliser? J'allais utiliser le même trajet que les cinéastes de Hollywood utilisent. Alors, j'ai dû arrêter. Alors, la poésie, comment est-ce qu'elle peut inspirer? Voilà, en fait, là, le chemin de l'homme est un cercle. Il est comme un serpent qui se mord la queue. Il termine là où il a commencé et meurt là où il est né. Ce chemin que l'homme a commencé, il le poursuit comme un ver de terre. Il le chevauche en perdant tous ses acquis et le termine comme il est né. Année par année, sans trêve, l'homme poursuit son chemin inlassablement. Année par année, sans trêve, l'homme achèvera ce chemin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, dans mon cinéma, je ne suis pas une chronologie. Donc, la façon que je conçois, c'est pas l'art. On peut utiliser les mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. Mais moi, dans les arts, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ça peut toujours... ça peut toujours être 1 ou 0. Donc, l'inspiration de cette sagesse rwandaise m'a aidé de m'imaginer qu'au cours, ou bien de m'approprier de ce trajet de 100 jours, que plus d'un million de gens ont été massacrés. Donc, les textes de mes films décrivent la condition ou la vie humaine comme un chemin ou une ligne de cercle qui avance en retournant vers son lieu de départ ou comme un serpent qui se mord la queue. Alors, je pense qu'il reste une question. C'est ça, non? Le spectacle, donc, ça, c'est le vidéo que j'ai montré a été... Ça faisait partie des recherches à travers l'association des étudiants rescapés du génocide au Rwanda. Donc, la pièce a fait le tour du pays lors du 10e commémoration du génocide. Cette pièce, il s'agissait de deux familles, la famille Hutu et la famille Tutsi. Et il s'agissait donc, le problème, c'est quoi? Mais la question n'était pas pourquoi. Alors, la conception aujourd'hui, l'image que j'ai de ce que j'ai filmé il y a 10 ans, est différente aujourd'hui parce que, bon, j'ai été, je vis aux États-Unis, j'ai été formé par des cinéastes qui connaissent la matière dans les cultures. Donc, ma vision de cela et comment l'imaginer, le mettre dans le cadre est différente aujourd'hui. Je suis à la recherche d'un centre qui pourra quand même m'héberger pour faire ce travail. Je crois que le scénario était à peu près 200 pages en Kinyarwanda. Mais je vais quand même travailler avec les Rwandais pour mieux aboutir à une audience internationale. Merci.
Merci, Gilbert. Alexis, tu peux...
Ouais, sur la question de l'esthétique, je peut-être juste quand même préciser que ce qui vaut pour le cinéma vaut pour le reportage et encore plus quand on imagine que le reportage est l'une des nombreuses catégories de la photographie et même de la photographie documentaire. Et en l'occurrence, je ne me retrouve pas dans l'appréciation que vous avez faite de réduire ça à toute photographie de reportage qui serait problématique du point de vue de l'esthétique. Je pense que là, vous faites référence à une forme d'expression très, très particulière. Et je crois que tout à l'heure, vous avez parlé de Salgado, qui a été assez emblématique de cette crise, effectivement. Mais je veux dire, par là, c'est que la photo documentaire ne se résume pas au reportage et le reportage ne se résume pas à Salgado. Voilà, mais je pense que c'est important de le dire. Là, en l'occurrence, cette troisième série qui s'inscrit après deux autres séries qui empruntent à d'autres formes esthétiques, assume justement la question problématique du beau, puisque ce que je vous ai dit au départ, c'est qu'après Itsemba Tsemba, où là, le spectateur est confronté aux archives de la radio Milcolin et à ces photos qui sont un peu des photos d'un photographe légiste qui constate ce qui reste deux ans après. Après, c'est de poser la question de comment regarde-t-on ces criminels ordinaires. En fait, ces séries étaient une sorte de subterfuge, c'est-à-dire... Tenez, regardez, tout d'abord, tout ça est très beau, regardez comme cette nature est belle. Et puis après, j'ai l'impression, hein, mais peut-être que je me trompe, le hors-champ vient ébranler pour, à mon avis, essayer de mieux le déconstruire, cette question du sublime et cette question de la vision romantique de la nature qui, somme toute, reste encore profondément inscrite dans notre bagage culturel, nous, Européens. À chaque fois que je suis allé au Rwanda, j'ai... non, ça je pense que, si vous voulez mon avis, c'est certainement pas ça ce qu'il faut faire. Maintenant, non, je pense que, comme je sais qu'on a peu de temps et qu'il faut quand même essayer d'avoir une certaine exigence, non, le débat est vaste. Sincèrement, le débat est vaste. Je suis pas sûr non plus que Salgado soit le photographe autour duquel tout doit tourner quand il s'agit d'esthétique et de beauté. Je pense qu'effectivement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu... le besoin de rompre avec cette tradition et cette iconographie, on est clairement dans un milieu qui s'auto-célèbre. Qui s'auto-célèbre, mais je dirais contre le cours du monde et contre l'histoire des images et leur actualité. En grosso modo, on va dire que les deux références, ça va être la guerre du Vietnam, hein, à la fois le moment où jamais les photographes ont été aussi libres, mais ils vont vivre les dernières heures où ils ne sont pas en concurrence avec un média qui va tout de suite leur ravir ce qui est l'essentiel, qui est la question du temps, puisque la télévision va commencer à émettre et à faire du direct, en tout cas de l'actualité, à partir du Vietnam, d'autre part. Et en quelque sorte, on va dire, la photographie, quand elle ne va plus avoir à dire l'actualité, mais à l'illustrer ou à la commenter, et le reportage, une des planches de salut, ça va être de dire, bon, bah, on va finalement, nous aussi reporters, se réaccrocher à notre vieille tradition picturale. Voilà. Et donc là intervient, on va dire, la deuxième référence, qui est le Louvre, Donc, grosso modo, pour être reporter, étudier vos classiques avec les photographes du Vietnam, et puis après, aller user vos semelles au Louvre, et puis là, on pourra arriver à faire illusion que le reportage existe encore dans toute sa dignité et toute sa puissance, et continuer à glorifier une iconographie qui, aujourd'hui, une fois de plus, ne s'inscrit pas dans l'actualité ô combien problématique des images. Est-ce que j'ai mieux répondu à la question ?
Voilà, merci. Alors, on va prendre une petite pause de 2-3 minutes, histoire que nous disparaissions dans le hors-champ et que d'autres personnes réintègrent le devant de la caméra.